Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, focus sur le projet de réemploi et d'insertion Envie en Bretagne qui fête ses 30 ans cette année. Depuis 1994, l'association a diversifié ses activités, élargi ses équipes et continue toujours à défendre un projet écologique, économique et social. Explication.
Là, c'est ce qui arrive ou ce qui repart ? Ce qui arrive.
Donc on est au nord de Rennes, rue de la Donnelière, avec le magasin Envie 35 et toutes les activités en coulisses de ce magasin. Donc le transport le logistique avec Envie Transport Bretagne, l'atelier de rénovation électroménager. Et également, on a une plateforme Multiflux Air Emploi qui est en expérimentation depuis un an. Ludovic Blom, je suis le responsable de ressources T des Envies en Bretagne.
Envie fête donc ses 30 ans cette année. C'est aussi pour ça que vous communiquez vers la presse, le grand public et aussi les élus. On va y venir. Donc le lancement, c'était il y a 30 ans, pas en Bretagne.
Alors on fête les 40 ans au niveau national. Donc effectivement, la première entreprise d'insertion Envie, c'était à Strasbourg. Et on fête nos 30 ans en Bretagne avec la création d'Envie 35 en 94.
Est-ce que la motivation de départ, finalement, est toujours là aujourd'hui ? Est-ce que la mission est toujours la même ?
Globalement, elle est la même. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, au niveau national, il y a eu un pari d'utopiste, on va le dire, qui était à la fois d'avoir un support d'activité d'insertion, donc pour lutter contre l'exclusion du monde du travail, et en même temps sur un secteur économiquement viable, et en même temps sur une activité d'économie circulaire. Alors, on ne l'appelait pas économie circulaire à l'époque, on ne l'appelait même pas développement durable, mais en réalité, la rénovation d'électroménager avait déjà une vocation d'action environnementale. Donc le triptyque social, économique, environnemental, c'est toujours le même aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est le volume, la dimension, et puis la diversification des activités, puisqu'on est sorti de la simple rénovation-vente d'électroménager pour faire d'autres activités.
Comment on peut résumer Envie, là, aujourd'hui, en 2024, en Bretagne, sur le nombre de personnes qui travaillent, une partie en insertion, les volumes qui sont récoltés chaque année, puis revendus ?
Alors, donc, aujourd'hui, Envie, c'est 6 structures juridiques en Bretagne, 250 postes, dont 160 en insertion, donc les 90 autres qui sont en CDI, c'est les services support, mais les encadrants, les services RH. Donc 6 entreprises, donc ça veut dire 6 activités différentes. Au début, il n'y avait que la rénovation-vente d'électroménager. Ensuite, il y a eu une activité de recyclage. Ce qu'on n'arrivait pas à réemployer, on le dépolluait, on le recyclait plutôt que de l'envoyer en ferraillage brut avec tous les risques, entre autres sur les gaz CFC, sur le froid. Ensuite, on a une activité de transport logistique pour, au-delà de ce qu'on collecte pour nous, développer une activité d'insertion sur ce secteur qui est hyper porteur. Ensuite, on a créé Envie Autonomie, donc la rénovation, mais sur le matériel médical, en particulier pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, donc tout ce qui est fauteuil roulant, lit médicalisé. Ensuite, on a créé une activité de travail temporaire d'insertion pour nos salariés qui ne parvenaient pas à trouver un travail directement à la sortie sur nos métiers, d'avoir une passerelle supplémentaire. Et puis, on a créé Ressources T sur tout ce qui est service support, mais qui est aussi une entreprise d'insertion sur des postes comme la maintenance informatique, la maintenance bâtiment. On a des postes dans le tertiaire sur l'aide à la communication, assistant comptable, assistant admin, parce que c'est aussi des métiers qui peuvent intéresser des demandeurs d'emploi longue durée et des bénéficiaires du RSA.
On imagine que selon les différents secteurs, les profils de personnes qui arrivent en insertion chez vous sont très variés.
Alors complètement, c'est-à-dire que insertion, ça ne veut pas dire réinsertion. Donc, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que des anciens détenus, c'est très marginal. Et derrière, c'est très varié. Administrativement, c'est essentiellement des demandeurs d'emploi longue durée, donc de plus d'un an, des bénéficiaires du minima sociaux, donc par exemple des bénéficiaires du RSA. Mais on a des jeunes de moins de 26 ans, 15%. On a des seniors de plus de 50 ans, 15%. On a des personnes qui, beaucoup, un niveau d'éducation inférieur au bac, donc plutôt CAP. Mais on a aussi des personnes qui ont le bac, aussi des personnes qui ont un niveau bac plus 2, rarement bac plus 5, mais ça arrive aussi. Et ça veut dire qu'il peut y avoir... Dans ces cas-là, d'autres freins à l'emploi, ça peut être des problématiques plutôt de santé, ça peut être des problématiques sociaux au sens psychologique, par exemple l'agoraphobie, ça peut être des problématiques de logement, des problématiques de langue, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ont un bac plus 5 mais venant par exemple de l'Ukraine. Et donc notre travail, c'est à la fois de les accompagner sur les compétences professionnelles, mais aussi sur les compétences, ce qu'on appelle extra-professionnelles, ou leurs problématiques périphériques, donc le logement, la santé, les dettes. Donc ça, tout ça, c'est le travail d'une entreprise d'insertion, et on mène tout de front. Nous, notre postulat, c'est de se dire, mettons les gens au travail. Déjà, ils regagnent un niveau de salaire plus important, une forme de confiance en eux, un rythme de vie qui est plus... propice à la stabilité, et en même temps, on va travailler sur le logement, et en même temps, on va travailler éventuellement sur le permis, parce qu'il y a des questions de mobilité aujourd'hui pour trouver du travail, et tout ça se travaille sur un parcours de 2 ans maximum.
Il y a un double défi en fait qui se pose à Envie, c'est à la fois donc d'accompagner des personnes en insertion, ce qui est un métier en soi, mais aussi d'assurer une solidité économique au projet, ce qui a l'air de fonctionner avec certaines réserves ou alors inquiétudes que vous émettez aujourd'hui. Il y a un contexte particulier, c'est intéressant parce qu'en fait le réemploi c'est devenu un argument marketing pour de grandes entreprises, de grands groupes qui se posent en fait comme des concurrents au niveau des gisements, on l'explique comme ça.
Oui, alors déjà la première chose, c'est que nous on se réjouit que l'économie circulaire devient un marché à part entière et plus très très marginal comme on l'a connu depuis 40 ans. On s'est battu pour que l'électroménager reconditionné, parce que c'est ce qui nous intéresse, se généralise, même s'il restera toujours minoritaire par rapport à l'achat de neuf. Donc après, on a deux nouveaux acteurs qui viennent, donc des acteurs lucratifs. Donc ça veut dire que nous, on doit anticiper les risques associés à ces nouveaux acteurs. On pourrait se dire, bon, bah, on a rempli notre mission, c'est pas grave, on laisse tomber le réemploi puisque d'autres s'y retrouvent et on se concentre sur d'autres métiers pour nos postes en insertion. En réalité, on n'est pas dupes, on est assez convaincu que la plupart des acteurs qui s'y sont mis vont avoir des difficultés parce que le modèle économique n'est pas si rentable qu'ils le pensent, voire il l'est peu ou pas. Et donc, s'ils arrêtent dans 2 ou 3 ans, qui est-ce qui va le faire ? Nous, on est persuadé qu'on doit encore continuer. Et puis surtout, on veut que l'économie circulaire, elle soit locale. Si c'est pour travestir et détourner l'idée de l'économie circulaire en ayant du réemploi qui est fait en Europe de l'Est ou en Asie, à partir de gisements achetés aux États-Unis, comme on le voit sur les smartphones, ça, c'est pas l'économie circulaire. C'est une économie où on revend plus rapidement, on multiplie les actes de vente, mais en aucun cas, ça prolonge la durée de vie de l'objet.
Où l'objet a même été vendu avec la promesse d'être remplacé rapidement, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre autres aux États-Unis, mais pas que, vous avez la possibilité d'acheter un appareil neuf avec, sous réserve de payer un peu plus cher, la garantie qu'au bout de 6 mois, on va vous le remplacer par un smartphone encore plus récent. Et donc le smartphone que vous avez, il va être orienté chez un reconditionneur qui va juste vider les données, éventuellement passer un petit coup de chiffon et le revendre sous l'étiquette économie circulaire, reconditionnement. C'est pas du reconditionnement, ça. Mmh. La rénovation, c'est allonger la durée de vie d'un objet. Là, en l'occurrence, ça fait juste que, au lieu d'avoir un utilisateur pour un appareil, vous en aurez 3 ou 4, mais sur la même durée de vie de l'objet. Donc là, on est dans l'atelier électroménager, donc la partie où on rénove les appareils. Vous entendez le bruit des machines qui tournent, qui sont en test. C'est là où nos salariés en insertion sont coachés par des encadrants, donc des anciens techniciens d'électroménager, hein, qui ont l'expertise métier, pour rénover nos appareils. On entend de l'air comprimé, on entend des machines qui tournent, on entend frotter. On voit des fours, on voit des machines à laver, des lave-linges, on voit des lave-vaisselle. On ne les voit pas, on les devine. Il y a les réfrigérateurs et les congélateurs au fond. Tout en haut, il y a toute la partie téléviseur, ordinateur, hi-fi. Nous, on a des défis, c'est-à-dire que il faut qu'on arrive à lutter contre ces acteurs lucratifs pour pérenniser notre activité, voire nous développer, parce qu'il y a encore des marges de progrès. Après, on a des forces. La première des forces, c'est que au niveau national, on est présent sur 53 sites, donc on est proche des gisements. Donc logistiquement, nous, on a des coûts plus faibles que les autres. En plus, on a notre flotte de transport logistique. Deuxième force, on a aujourd'hui au sein du réseau 1000 encadrants ou techniciens expérimentés en réemploi. Et c'est vrai que la rénovation d'électroménager, c'est plus compliqué que la simple réparation. Si vous allez voir votre réparateur, il va vous changer la pièce défectueuse et c'est tout. Dans le cadre de la rénovation, on va changer là où les pièces défectueuses, mais on va aussi changer les pièces d'usure, les pièces qui ne sont pas en panne au moment où on teste l'appareil, mais qui risquent de l'être dans 3 mois, dans 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, on donne une seconde vie, on prolonge la durée de vie de l'objet et on redonne une garantie de 2 ans, l'équivalent de la garantie d'un produit neuf. Et voilà, je pense que les acteurs qui se sont mis à la rénovation sur l'électroménager s'aperçoivent que c'est beaucoup plus compliqué que sur les smartphones. Et finalement, ça ne va pas être si rentable qu'il n'en rêvait au départ. Troisième force, c'est que nous, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc là où tous les autres acteurs ont des levées de fonds importantes et doivent générer beaucoup de marge pour rémunérer ces acteurs qui leur ont fait confiance, nous, on n'a pas cette pression du résultat à court terme. Tout ça, ça fait des forces. Après, les conditions pour lesquelles on puisse se développer. Le premier, c'est qu'on puisse accéder au gisement de manière équitable. Aujourd'hui, un risque, c'est que les distributeurs qui vendent les équipements électriques et électroniques, jusqu'à présent, redonnaient la totalité de ce qu'ils collectaient, redonné par les clients, à la filière. Eux-mêmes sont intéressés, ils ont pour certains, créer des coins, des corners seconde main. Le risque, c'est qu'ils se gardent ce qu'on appelle la crème, c'est-à-dire les appareils les plus récents, les meilleures marques, les plus faciles à rénover, et que l'ESS, de manière générale, l'économie sociale et solidaire, ne récolte que ce qui est plus compliqué et plus cher à rénover. Et là, pour le coup, notre modèle économique, il passera pas. Et puis, en termes d'équité, c'est pas le sens de la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été votée en 2020. Cette loi, elle stipule que les pollueurs-payeurs, les distributeurs et les fabricants, doivent faire en sorte qu'on double le réemploi et qu'il y ait une priorité d'accès au gisement pour les acteurs ESS parce qu'on a été les pionniers et qu'il est hors de question qu'une fois qu'on a défriché et qu'on a pris tous les risques, finalement, ce soit encore une fois les lucratifs qui remportent la mise et que nous, on doit s'arrêter.
Alors les différents phénomènes que vous évoquez là, ils ont amené le groupe Envie en Bretagne à connaître une baisse du chiffre d'affaires sur donc la revente d'électroménager, compensée en fait par les autres activités que vous avez présentées. C'est peut-être là qu'on peut parler de l'expérimentation donc d'un centre de tri multiflux. Vous êtes comme une gare de tri où vous allez chercher donc des gisements qui vont ensuite être dirigés vers différents acteurs, pour certains associatifs sur le territoire.
Oui, donc jusqu'à présent, je n'ai parlé que des équipements électriques et électroniques. Il y a d'autres produits sur lesquels il y a des objectifs de réemploi à la hausse. Hein, donc tout ce qui est lié au mobilier, aux articles de bricolage et de jardinage, aux articles de sport et loisirs, à la culture, à la vaisselle. Donc tous ces flux, la difficulté logistique... c'est que les acteurs ESS du réemploi, donc qu'on appelle les ressourceries ou Emmaüs historiquement, comment faire pour que ces flux qui viennent des déchetteries soient mis de côté à la déchetterie quand ils sont potentiellement réemployables et acheminés vers ces acteurs. logistiquement, c'est quasi impossible d'avoir pour chaque déchetterie X camions qui partent vers X déchetteries. D'où l'idée d'une expérimentation de ce que vous appelez une gare de triage, et c'est vrai que le terme est approprié, qu'on appelle une plateforme multiflux et réemploi, où tous ces objets sont collectés par Envie Transport Bretagne vers une plateforme et réacheminés ensuite en fonction des besoins des différentes ressourceries. Donc vous avez des ressourceries qu'on appelle généralistes, comme la Belle Déchette, l'Échappée Benne, Annette sur le territoire, ou Emmaüs bien entendu, qui, elles, sont intéressées par tous les objets. Et puis, vous en avez d'autres qui sont spécialistes. Je pense à l'Équipière, par exemple, qui est une ressourcerie sportive, ou la Petite Reine, qui est spécialisée dans les vélos, qui, elles, veulent qu'une partie du gisement. Et puis ensuite, vous avez des acteurs de la solidarité. Les Restos du Cœur, Bulle Solidaire, Utopie 56, qui, elles, sont intéressées par des dons d'objets qui n'intéressent pas les ressourceries. Et donc voilà, là aujourd'hui on expérimente cette plateforme pour arriver à un modèle économique qui ne coûte pas trop cher à la collectivité, parce qu'aujourd'hui c'est la collectivité Rennes-Métropole qui finance 99% des coûts. Et c'est comment on optimise notre organisation, comment on trouve des cofinancements, entre autres auprès des éco-organismes, avec les fameuses filières REP, comment on assure la traçabilité de A à Z, c'est-à-dire pas seulement jusqu'à la plateforme, mais jusqu'à la ressourcerie pour calculer le vrai taux de réemploi. Et puis aussi et surtout, comment on augmente fortement les volumes de réemploi, comment le collectif accompagne les différents ressourceries pour augmenter leur potentiel de vente. Ça passera aussi par des surfaces de vente supplémentaires, mais pas que. Peut-être par de la vente en ligne, peut-être par des actions de vente éphémère. L'idée, c'est de se faire connaître. Hein. C'est-à-dire que globalement, à chaque fois que je vais dans ces ressourceries, je vois qu'il y a un engouement, mais c'est récent. Donc en termes de notoriété, tout le monde ne connaît pas encore sur Rennes Métropole, malgré tous les efforts de communication, ces différentes ressourceries.
Donc REP, juste pour préciser le cycle, pour responsabilité élargie du producteur, ces gisements, ils viennent essentiellement des déchetteries de Rennes Métropole, c'est ça le partenariat ?
Les plateformes multiflux, c'est 99%, je le disais, les flux des collectivités. Et à côté de cela, nous, on est titulaire de marché auprès d'autres organismes qu'Écosystème, Écomaison et Écologique pour ne pas les nommer, sur des flux comme les articles de sport et loisirs, comme les jeux jouets, les articles de bricolage, avec l'ambition de pouvoir aussi extraire une partie du gisement pour le mettre à disposition de ces ressourceries.
Aussi, dans les évolutions du projet Envie en Bretagne, il y a le développement de prestations extérieures, ce qui vous amène à estimer que d'ici 2030, il y aura 500 équivalents temps plein pour votre projet, à certaines conditions quand même.
Oui, c'est-à-dire que si on regarde nos différentes activités, sur la rénovation d'électroménagers, il y a un potentiel énorme de croissance parce que la loi incite les distributeurs et les fabricants à doubler le taux de réemploi. Sur la partie transport, logistique, préparation, réemploi, ben, mécaniquement, elle bénéficie de celui-ci. Et puis, on a dès aujourd'hui des demandes qu'on n'arrive pas à honorer parce qu'on n'a pas la place. Donc vous parliez d'une des conditions, c'est qu'on puisse déménager notre activité transport logistique sur Rennes Métropole, parce que c'est important en termes d'accessibilité pour nos salariés. Donc là, c'est un gros défi. Si on n'y parvient pas, en fait, ça enraye un petit peu la machine à augmenter notre offre d'insertion. On a d'autres pistes de développement sur la partie recyclage, parce que de plus en plus d'industriels ont eu vent de à la fois notre agilité et notre innovation sur les nouvelles filières comme le matelas ou les déchets du BTP, donc on a des potentiels. Et effectivement, en dehors des activités un peu existantes, nous avons lancé une étude d'action pour une activité d'infogérance en entreprise d'insertion, donc vendre des prestations de gestion des parcs informatiques pour des associations et des petites entreprises.
Et on précise que pour l'implantation, vous êtes donc à Brest, Saint-Brieuc et Rennes. Rennes où on se retrouve et où les auditeurs peuvent venir découvrir la boutique qui est au nord de Rennes, rue de la Donnelière. Le Morbihan, c'est à venir.
Alors le Morbihan, on n'y est pas. Brest, on a ouvert en 2022. C'était un gros investissement. Hein. C'est un succès parce qu'aujourd'hui, on a une trentaine de salariés. Donc c'est top. Après, on n'a pas la capacité à monter ce genre de dossier tous les ans, loin de là. Étape par étape, oui, il y a du potentiel sur le Morbihan, sur le 56. mais on ne va pas se précipiter et risquer de se fragiliser sur les autres départements.